France Inter, il est 7h30. Et c'est le journal de Faustine Canmel. Bonjour Faustine.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. L'Amazonie brûle, catastrophe écologique en cours. Le sujet s'invite au G7 qui débute demain à Biarritz. À la demande d'Emmanuel Macron, le chef de l'État reçoit avant cela la société civile à l'Élysée ce midi. En France aussi, il y a urgence, on manque d'eau dans la Creuse. Mais le sommet des chefs d'État peut-il vraiment faire une place au climat? C'est ce que réclament les militants altermondialistes qui ont déjà manifesté hier à Hendaye. Le G7 et l'Iran aussi au menu. Emmanuel Macron se pose en médiateur dans la crise avec les États-Unis autour du nucléaire, nous dira Franck Madvon. Les États-Unis, c'est peut-être la délégation la plus scrutée. Donald Trump arrive demain avec ses propres moyens de transport. Air Force One, hélicoptère, débarquement qui cristallise l'attention de Bordeaux à Biarritz. Dans ce journal aussi, une banque qui propose des prêts à des taux négatifs et taxe les gros épargnants. Les taux très bas renversent le dogme bancaire au Danemark. Et le dernier roman de Monica Sabolo dans la rentrée littéraire de jeunes filles au centre d'un conte sur l'adolescence.
Dans 20 minutes, Nicolas Bay, eurodéputé RN, sera le premier invité de la matinale. Rendez-vous à 7h50.
France Inter.
Le G7 va-t-il réussir à se verdir? C'est un des enjeux du sommet qui débute à Biarritz. Il y sera question de diplomatie internationale, de commerce, d'économie et de climat, promettent les chefs d'État, dont Emmanuel Macron, qui veut mettre au menu des discussions la situation de l'Amazonie ravagée par des incendies sans précédent. L'Amazonie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique, dont les effets se font ressentir et parfois cruellement tout près de chez nous. Dans la Creuse, la ville de Guéret est en cette fin d'été face à un risque de pénurie d'eau, à tel point qu'il va falloir puiser en urgence dans un lac à l'entrée de la ville, Samuel Monod.
10, c'est le nombre de jours qui nous reste si l'on ne trouve pas un nouveau réservoir d'eau. Guéret consomme environ 3000 m3 d'eau par jour, la gare Tempe et ses ruisseaux ne suffisent plus, alors la ville va puiser dans un autre réservoir. Michel Vernier, maire de Guéret.
On va revenir sur le traitement de l'eau de Courtille, qui est la seule solution qu'on a devant nous. On va, avec notre partenaire, traiter cette eau pour pouvoir fournir l'eau nécessaire à la consommation autour de 3000 m3. D'eau par jour lorsque tout le monde sera là.
Quand tout le monde sera revenu, c'est-à-dire les vacanciers, les collégiens et lycéens, mais l'étang de Courtille n'est pas une solution miracle. Sa ressource est limitée, elle n'alimentera pas les robinets très longtemps.
Une centaine de jours, en espérant que l'automne soit pluvieux pour que les productions naturelles des sources de la gare Tempe remontent.
L'eau de l'étang de Courtille sera extraite par une station de pompage mobile, puis traitée dans une usine de traitement pour la rendre potable, comme l'explique Patrice Cordier, directeur général des services techniques.
Il y a des adjonctions de chlore, des adjonctions de charbon actif qui vont traiter l'eau. Ensuite, cette eau va être filtrée en même temps. Toutes les matières organiques vont être enlevées des filtres.
D'ailleurs, en plus des 3000 m3 essentiels pour la population, 40% d'eau supplémentaire seront nécessaires pour laver les matières organiques de l'étang de Courtille, comme les feuilles ou les branches d'arbres.
Un reportage Samuel Monod de France Bleu Creuse. Alors peut-on vraiment parler écologie au G7? Les trois jours qui viennent seront décisifs. Et avant le sommet, Emmanuel Macron reçoit la société civile à l'Élysée aujourd'hui. Les patrons de grands groupes du textile vont s'engager à limiter la pollution de leur production. Une trentaine de multinationales débloquent 1 milliard d'euros pour des projets pour plus de justice sociale et un meilleur respect de la planète. Le réseau Action Climat boycotte ce rendez-vous, estimant ne pas avoir été suffisamment associé à la préparation du G7. Les militants écologistes pourtant sont déjà sur place à Biarritz et veulent se faire entendre. Hier, 200 personnes ont manifesté entre le camp de base du contre-sommet à Ourougne et Hendaye, près de la frontière espagnole, défilé sans autorisation au Marwaman.
Le défilé improvisé s'était lancé dans les rues d'Hendaye à la surprise générale et sans difficulté. Cette militante écologiste en tête de cortège n'en revient pas.
Dès qu'on a empiété la route, je me dis ça y est, il va y avoir les policiers et puis ils vont nous dire de retourner au camp. Et non, quand j'ai vu qu'on arrivait à marcher, j'ai trouvé ça trop génial.
Totalement pris de court, des policiers municipaux, discrets, encadrent la manifestation non déclarée, se réjouit ce militant altermondialiste. Un mégaphone à la main.
Bah oui, on a montré qu'on était capable de prendre la rue quand on le voulait, de la manière dont on le voulait, et que c'était ni la police ni quiconque d'autre qui allait nous dire quand le faire.
Au milieu de la marche, des participants portent une grande armature en bois fabriquée sur le camp de base et destinée au village alternatif dans le centre d'Hendaye, Benji de Nantes.
On l'amène dans la joie, dans la démonstration, et comme le dit la banderole, leur monde s'écroule, les nôtres se construisent.
Le cortège progresse dans une ambiance festive et bon enfant.
Et les gens sont sortis sur leur balcon, on a pu appeler Hendaye à se soulever à nos côtés, les gens ont été très souriants et nous ont fait bon accueil.
Des habitants d'Hendaye qui espèrent que la grande manifestation prévue demain samedi se déroulera dans la même ambiance.
Une manifestation très encadrée, hein, puisque plus de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Biarritz.
Et avant les entretiens du G7 demain à Biarritz, Emmanuel Macron poursuit son marathon diplomatique.
Le chef de l'État reçoit une délégation iranienne emmenée par le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Emmanuel Macron espère toujours jouer les médiateurs avec les États-Unis dans le dossier du nucléaire iranien et sauver l'accord de 2015. Mission difficile, Franck Madvon.
Cette fois, côté iranien et français, on se veut discret. Les derniers contacts entre les deux pays avaient pourtant eu droit à une importante publicité. Emmanuel Beaune, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, s'est rendu en Iran deux fois cet été, dans un contexte de tension dans le Golfe, attaque de pétroliers, destruction d'un drone américain. La France veut éviter l'escalade entre l'Iran et les États-Unis et elle espère encore sauver l'accord nucléaire de 2015, un accord dont Washington s'est retiré et dont l'Iran n'applique plus certaines disposition. Emmanuel Macron a esquissé un plan, en résumé, alléger les sanctions en échange du maintien de l'Iran dans l'accord. Il faudrait pour cela un geste américain, par exemple des exemptions sur le pétrole, peu probable, ou un système de troc efficace pour permettre des échanges commerciaux entre l'Iran et l'Europe, mais aucune transaction n'a pu avoir lieu jusqu'ici. À cela s'ajoute un dossier délicat, l'arrestation en juin en Iran de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelra. Seule bonne nouvelle, elle a enfin un avocat.
Et cette question iranienne, elle mobilisera la délégation américaine. Donald Trump est attendu demain et parmi les chefs d'État, c'est un de ceux dont l'arrivée est la plus scrutée. Il débarque avec ses propres moyens de transport. Les plans de vol restent confidentiels sous haute sécurité. Pour l'instant, Florence Pérusin, le plan le plus probable, c'est que le président américain arrive d'abord à Bordeaux.
C'est le scénario en effet qui est évoqué par plusieurs sources policières, une arrivée d'Air Force One à Mérignac et un transfert immédiat de Donald Trump et de son épouse dans l'hélicoptère présidentiel Marine One. Cet hélicoptère est déjà dans notre région, il est arrivé mardi midi à bord d'un énorme avion cargo de l'US Air Force qui s'est posé sur l'aéroport de Fontarabie au Pays Basque espagnol et qui est reparti tout de suite après. Le transfert du couple présidentiel entre Bordeaux et Biarritz ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. Évidemment, il se fera sous haute surveillance avec une bulle aérienne qui sera créée tout autour de l'appareil. Et ce sont les services secrets américains qui piloteront, tout comme d'ailleurs ils piloteront la sécurisation de l'aéroport de Bordeaux. Bref, le scénario semble bien réglé. Trop bien même pour certains syndicats de policiers qui parient eux plutôt sur Mérignac comme d'un contre-feu afin de permettre à Air Force One d'atterrir plus tranquillement sur une base militaire du sud-ouest, Mont-de-Marsan ou Cazaux, ou peut-être même du côté espagnol.
Florence Pérusin, à l'étranger, de nouvelles manifestations pro-démocratie à Hong Kong aujourd'hui. Les protestataires se retrouvent près du siège du gouvernement et la Chine tente toujours de contenir le mouvement, notamment avec des actions de propagande sur les réseaux sociaux. Après Facebook et Twitter, la plateforme vidéo YouTube a à son tour désactivé 210 chaînes soupçonnées de participer à cette propagande.
Au Danemark, les banques semblent perdre la tête.
Des crédits immobiliers à taux négatif et des taxes sur les épargnes les plus fournies, la Jyske Bank met en place des prélèvements complètement à l'inverse du système. Et ce qui pousse l'établissement à faire les choses à l'envers, ce sont les taux d'intérêt au plus bas, Noémie Philippot.
Si on se place du point de vue de la Jyske Bank, cela paraît en fait presque logique. En proposant des crédits immobiliers à moins 0,5% sur 10 ans, elle paye quasiment ses clients pour qu'ils empruntent et ne fait pas vraiment d'affaires. La banque grappille seulement quelques milliers d'euros en frais de dossier et d'assurance. C'est donc pour compenser ce taux d'intérêt négatif et stopper sa chute de bénéfices que la Jyske Bank veut taxer les comptes de dépôt les mieux fournis. Seuls ceux affichant un solde de plus de 7,5 millions de couronnes, soit 1 million d'euros, sont concernés. Montant de cette nouvelle taxe annuelle, 0,6%. Payer pour épargner et se faire payer pour emprunter, les faibles taux d'intérêt font tourner le monde bancaire à l'envers. Un symptôme de pessimisme sur l'état de l'économie européenne dont le Danemark, bien qu'extérieur à la zone euro, reste très dépendant. Les banquiers danois s'attendent donc à ce que les taux restent durablement bas pendant au moins 8 ans, pronostique le PDG de la troisième banque du Royaume.
Noémie Philippot, en France, après les Verts et les Insoumis à Toulouse, le PS fait sa rentrée, université d'été à La Rochelle. Les socialistes retrouve la ville qu'il boudait depuis 3 ans, sans François Hollande et Bernard Cazeneuve qui attendent les journées parlementaires début septembre à Avignon, ni Anne Hidalgo, elle retenue à Paris pour les commémorations de la libération de la capitale. Les communistes font leur rentrée politique à Aix-en-Provence jusqu'à dimanche.
La rentrée, elle est aussi littéraire, aujourd'hui avec un roman de Monica Sabolo que l'on vous présente ce matin sur France Inter.
Dans Eden, l'auteur s'attache à un sujet délicat, celui de l'adolescence, âge complexe face à l'avenir et l'envie sans fin. Pour l'aborder, Monica Sabolo raconte une histoire comme un conte autour de deux jeunes filles, Ilana Muriceff.
À une autre époque, Monica Sabolo aurait sans doute été qualifiée de sorcière. D'ailleurs, quand on lui demande son âge...
Je suis entre 14 ans et 80 ans. Non mais je veux dire, c'est l'un ou l'autre, j'ai pas toute la palette intérieure.
En vérité, nul ne parle comme Monica Sabolo de cet âge où les garçons et les filles sont à l'orée de la vie.
C'est vraiment, il me semble, un roman sur la lisière entre deux mondes, entre la civilisation et le sauvage, entre l'enfance et l'âge adulte, entre l'innocence et la faute. Les choses sont devant eux et en même temps, il semble régner une certaine désolation comme promesse d'avenir.
Eden se situe dans un lieu indéterminé, en bordure d'une forêt. Au centre du roman, deux jeunes filles, Nita, l'autochtone révoltée, et la blonde Lucie, retrouvées un jour nues au pied d'un arbre, blessées, vivante, mais absente à elle-même.
C'est un roman sur la domination et sur les femmes et sur la nature. Il y a comme un fil secret qui rejoint dans ce livre la forêt que l'on coupe en permanence au bruit des tronçonneuses. Et les jeunes filles, elles sont comme un miroir symbolique l'une de l'autre.
Comme dans les contes, il faut traverser la forêt et surtout faire confiance à la plume ensorcelante de Monica Sabolo.
Eden de Monica Sabolo, publié aux éditions Gallimard. On parlera aussi littérature tout à l'heure avec vos invités, Laetitia Gaillet. La sélection JDD France Inter pour cette rentrée, vos invités Marie Darius et Sylvain Prudhomme.
Vous êtes parfaite, Faustine Calmel. Merci. Est-ce que Kevin Dufraîche sera parfait pour la route? On va lui poser la question. Kevin, il y a des accidents sur l'autoroute A10?
Absolument. D'abord à Saint-Léger, juste avant Saintes, en direction de Paris. Un accident entre deux voitures. Résultat, sur deux voies, celle de droite est neutralisée. Et puis dans l'autre sens, vers Bordeaux, cette fois, il y a un accident à Marigny-Brisé, à quelques kilomètres de l'entrée de Poitiers. L'A10, qui fait partie et des autoroutes qu'il vaut mieux éviter en ce week-end pas parfait de retour de vacances. Pour aujourd'hui, bison futé, voie rouge dans un gros quart sud-ouest et tout le long de la Méditerranée, et c'est orange partout ailleurs.